20 ans. C'était il y a 20 ans. Ça passe, hein ? Je le sais parce que Evan va avoir 20 ans. La semaine prochaine. Exactement. Voilà. Donc il y a exactement 20 ans, moins 10 jours, moins 20 jours, nous étions. Nous déménagions au Creusot depuis ici. Voilà, 20 ans. Donc nous étions là avec Antoine et nous avons tellement de bons souvenirs de notre année passée ici. Et puis nous étions là au baptême de Luc, donc c'était il y a 20 ans. Voilà, que des choses. Mais ça fait vraiment plaisir. Je ne sais pas si vous avez suivi le culte de l'association la semaine dernière.
Sans le son,
oui. Sans le son. Oh, c'est dommage. Voilà. Voilà, donc je vous ai mentionné, vous avez vu. Très rapidement, je vous ai mentionné. Et puis, donc on était à l'AG, et puis dans la voiture, en rentrant, on se disait, ah quand même André, hein, dans les AG, les rapports financiers, c'était quelque chose. Donc... Vraiment beaucoup de souvenirs, beaucoup d'amitié, vraiment qui nous lie. Mais voilà, avec grand plaisir nous sommes là. Malheureusement, Evan n'est pas là. La seule qui est née à Glézé, elle se demandera toute sa vie où est-ce que Glézé est. Mais elle n'est pas là aujourd'hui avec nous. Mais nous avons les trois autres. Voilà. Et donc, hop. C'est avec beaucoup de plaisir que je viens vous apporter la méditation, la prédication ce matin et les salutations de l'Église de Genève. Nous pensons bien à vous et nous voulons vraiment vous encourager dans ces temps et puis dans cette jolie ville de Villefranche. Oui, depuis 20 ans, beaucoup d'eau a coulé dans la Saône et beaucoup de vin de Beaujolais a coulé dans les verres. Mais l'amour est intact et l'unité qui nous lie ensemble et avec l'Église de Genève et avec toutes les autres églises de l'association est vraiment là. Et nous sommes de tout cœur avec vous. Et aujourd'hui, nous ouvrons donc la parole de Dieu à la seconde épître de Paul aux Corinthiens. Donc c'est la deuxième lettre que Paul a écrite aux Corinthiens. Et nous prenons au chapitre 3. De Corinthiens 3. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ? Ou avons-nous besoin, comme certains, de lettres de recommandation pour vous ? Ou alors de votre part ? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans notre cœur, connue et lue de tous les hommes. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Telle est l'assurance que nous avons par Christ auprès de Dieu. Je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait, et qui pourtant était passagère, combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux ? En effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Et même de ce point de vue, ce qui était glorieux a perdu son éclat à cause de la gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été marqué par la gloire, ce qui est permanent sera bien plus glorieux. Puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère. Mais leur intelligence est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. Nous tous, qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Tout est dit. Tout est dit. Pour être valable, il est communément accepté qu'une lettre de motivation, une lettre de recommandation, une attestation, un certificat, doit être écrit par un tiers, par quelqu'un d'autre. Il n'est pas possible de les écrire pour soi-même, ou alors ces documents perdraient leur crédibilité. Dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens, nous découvrons l'apôtre aux prises, et ce n'est pas la première fois. Il est aux prises avec des détracteurs, des critiques, des douteurs, qui lisaient certains passages de ses lettres comme des lettres de recommandation qu'il s'écrirait pour lui-même, où il chercherait de lui-même à prouver de ses propres forces sa crédibilité et son autorité, à s'auto-certifier, pour ne pas dire s'auto-proclamer. Ces mêmes critiques allaient jusqu'à remettre en cause tout son ministère, son apostolat, sa légitimité. Il est donc assez compréhensible que Paul, dans sa seconde épître aux Corinthiens, se défend avec force et virulence d'un quelconque désir de prouver quoi que ce soit de plus que ce que les Corinthiens ont vu, ont devant leurs yeux, ce qu'ils ont vécu tout le temps où Paul était avec eux, ce qu'ils vivent maintenant et ce qu'ils sont eux-mêmes. Donc loin de l'apôtre l'idée de se justifier lui-même ou de prouver quoi que ce soit de lui-même, il n'en a pas besoin. S'ils ne peuvent pas comprendre ce qu'ils prêchent, s'ils sont aveuglés, s'ils ne peuvent pas comprendre ce qu'ils vivent, ce qu'il a vécu avec eux, s'ils ont oublié, si certains tordent ses propos et l'accusent d'agir avec ruse et intérêt personnel et fausseté, c'est qu'ils ne voient pas. Ils n'ont donc encore rien compris à ce que le Seigneur est venu offrir. Si Paul déclare n'avoir besoin ni d'attestation, ni de certificat, ni de recommandation, c'est que son assurance, sa confiance est en Christ. Elle est par Christ, elle est de Christ. Et en lui, en Christ, par l'Esprit, il a toute liberté, y compris la liberté de parole. De la même façon, nous aussi, nous pouvons faire preuve d'assurance, la même assurance que Paul. Celle qui est insufflée par l'Esprit de Jésus-Christ en nous. Et donc nous irons aujourd'hui un peu plus loin dans cette réflexion en parlant du voile qui a été ôté, afin que nous puissions contempler en vérité et être transformés. Et ainsi devenir en quelque sorte une lettre pour le monde. Le voile a été ôté. Lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. C'est Paul qui le dit au verset 16. Ce voile est différent du voile mentionné un peu plus tôt dans le chapitre. Celui que Moïse a dû porter en descendant de la montagne. Le voile qui est ôté, qui nous est ôté, et le voile qui recouvrait les yeux, les oreilles, le cœur des êtres humains, le cœur du peuple d'Israël, qui ne pouvait comprendre ce que seul Jésus-Christ allait révéler entièrement, totalement, complètement, dans toute sa plénitude. Alors dans l'histoire d'Israël, il y a eu un premier dévoilement. En Deutéronome 29, Moïse dit au peuple, « Vous avez vu, mais jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Jusqu'à aujourd'hui, dit-il. » Cet aujourd'hui, c'est lorsque Dieu donne à Moïse les tablettes de la loi, les paroles de l'alliance qu'il doit proclamer au peuple. C'est cet aujourd'hui où ils doivent recevoir un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. C'est un premier dévoilement qui s'opère, une première révélation. La révélation de la loi bonne et magnifique de Dieu. La loi qui vient de Dieu est bonne. La loi divine était bonne. Oui, il est bon d'aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Il est bon de ne pas tuer, il est bon de ne pas porter atteinte à l'intégrité de notre prochain, de quelque manière que ce soit. Il est bon de suivre le Seigneur et de rappeler ses hauts faits, et de se rappeler régulièrement que le peuple d'Israël était un peuple choisi, mis à part. C'était bon. La loi de Dieu était bonne. Le don de la loi, c'est là la première alliance de Dieu avec son peuple. Cependant, cette loi, et Paul de nous le rappeler dans notre texte, apporter la condamnation et la mort du fait de l'incapacité de l'homme de la suivre. L'homme n'était pas capable de lui obéir à cause du péché, à cause de l'esclavage du péché. Oui, c'est ainsi que la loi de Moïse apportait la condamnation et la mort. C'était à cause du péché de l'homme. Parce que lorsque Moïse descend de la montagne, son visage rayonne de la gloire révélée de Dieu. Par contre, cette lumière, ce rayonnement était temporaire, pour un temps, car elle n'était que partielle. Certaines réalités sont demeurées cachées. Et Moïse de rappeler au peuple que les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu. Et les choses révélées sont pour nous et nos enfants, à toujours. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc c'était une première révélation. Une première révélation qui appartenait à son peuple. Ce premier dévoilement était partiel, mais il était suffisant pour un temps. Le peuple devait mettre en pratique ce qui avait été révélé et laisser à Dieu le reste. Est venu ensuite un autre dévoilement, celui que le Christ a opéré. Seul Christ allait apporter la révélation totale. Lui seul pouvait donner du sens, expliquer, accomplir, révéler, interpréter parfaitement la loi et les prophètes. Il a non seulement commenté les Écritures, mais il les a accomplies. Lorsque Christ s'est incarné, lorsque Dieu s'est fait homme parmi les hommes, il a levé le voile sur les réalités spirituelles. Car celui qui a vu le Christ a vu le Père. Et lorsque nous nous repentons de notre péché, l'Esprit du Seigneur ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, ouvre notre cœur, ouvre notre entendement, ouvre notre raison. C'est ainsi que sans voile sur le visage, nous pouvons contempler comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes dans cette attente du dévoilement ultime, final. C'est ce dévoilement ultime, final, qui est là dans la révélation, dans l'Apocalypse, qui est un dévoilement. Et l'Écriture nous encourage à faire attention à ce qui nous est révélé, car cela doit faire l'objet de notre obéissance sans compromis, sans partage. Et dans l'attente du retour de Christ, nous acceptons, en attendant cette révélation finale, ultime, nous acceptons avec humilité que certaines vérités demeurent encore voilées et cachées. Nous acceptons avec humilité et soumission que nos connaissances soient limitées, car les choses cachées appartiennent toujours à Dieu, à l'Éternel, à celui qui sait tout. Nous reconnaissons, nous acceptons nos limites et nous acceptons, pour sa gloire, de ne pas tout comprendre. Nous acceptons nos limites tout en progressant dans notre connaissance. Cela n'ôte rien à la réalité de cette révélation opérée par l'Esprit, ce dévoilement. Car oui, notre intelligence était un jour aveuglée et obscurcie. Notre cœur était endurci. Mais le voile, ce voile-là a été ôté. La pierre qui nous faisait office de cœur a été changée en cœur de chair. N'est-ce pas merveilleux lorsque tout à coup l'Esprit libère notre intelligence, ouvre nos yeux, et soudainement ce que nous lisons dans sa parole est porteur de sens. Nous comprenons. Un jour, ce jour-là, nous avons compris. Le voile qui masquait la gloire de Dieu a disparu et nous donne accès à la gloire éternelle, gloire permanente, pour toujours et toujours. Et ainsi, nous pouvons contempler. Contempler comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous pouvons lever nos yeux et contempler Jésus dans toute sa splendeur, sans voile, en esprit et en vérité, esprit de liberté, esprit porteur de vie. Nous voyons comme pour la première fois ce qui était là devant nos yeux. La gloire de Dieu s'est toujours, depuis toujours, révélée dans sa création. La gloire de Dieu s'est révélée en Christ, le Fils, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il ne tient plus qu'à nous de laisser l'Esprit ouvrir nos yeux, nos cœurs, nos oreilles et notre intelligence sur ce qui est là. Ce qui est là, bien réel, en vérité. Regardez, contemplez, pas seulement une fois pour toutes, mais constamment. Pas seulement une fois de temps en temps, mais tout le temps. Et c'est ainsi que l'Esprit nous donne l'amour pour faire sa volonté, pour faire ce qui est bon et pur. L'Esprit nous donne le pouvoir, la capacité de lui obéir, de rester proche de lui. Ce n'est pas hors de notre portée, ce n'est pas au-dessus de nos forces. Lui qui redonne vie à l'esprit abattu, lui qui redonne vie au cœur brisé, il nous dit « Garde mes commandements tout près de toi ». Dans ta bouche et dans ton cœur, choisis la vie. La loi qui était prescription, ordres et commandements est maintenant gravée dans notre cœur. Et elle y prend tout son sens. La loi est gravée dans notre cœur. Ce n'est plus « tu ne tueras point, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas ». Car par l'Esprit, par le sceau de l'Esprit sur notre cœur, c'est notre volonté, notre être qui s'imprègne, qui intègre la volonté juste et bonne de notre Dieu. J'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. Je veux, je choisis, je prends plaisir à faire ce qui est bien. Parce que l'Esprit du Seigneur qui a ôté le voile nous donne un accès direct à la vie, au pouvoir de transformation de l'esprit. Des yeux aveugles ne servent à rien. Des oreilles sourdes ne servent à rien. Un cœur de pierre ne peut pas battre. Ouvrons-nous donc à la vie, au cœur qui bat, aux oreilles qui entendent et aux yeux qui voient. Qui voient l'éclat dont brille l'évangile de Christ. Et cet éclat, Paul le dira un peu plus loin, n'est pas visible à ceux qui sont aveuglés, aveuglés par le Dieu de ce monde. Tout ce qui nous empêche de voir la lumière de Jésus, tout ce qui nous empêche de la voir dans toute sa splendeur, tout ce qui dans le monde, dans notre vie, dans les choix que nous faisons, nous tire vers le bas. Il est vrai que tout cela est bien imagé, bien au-delà de notre entendement parfois, bien au-delà de nos sens. Avons-nous été un jour aveuglés comme Paul l'a été sur le chemin de Damas ? Je ne l'ai pas été personnellement. Par contre, l'illumination intérieure, l'illumination du cœur, la libération de l'âme, le moment où tout à coup, j'ai compris, ça je l'ai vécu. La soudaine compréhension que oui, je marchais dans les ténèbres, que ma vie n'avait pas de direction, que je ne m'appuyais que sur du vide. Je l'ai vécu et je le vis encore. Lorsque régulièrement je contemple mon Sauveur, je vis la mise en présence des ténèbres dans ma vie à chaque fois que je contemple mon Dieu, lorsque j'étudie sa parole et je vois mes limites, je vois ma condition, je vois mes limites, mais je sais que Dieu, lui, voit au-delà des limites et voit surtout le travail qui s'opère, la transformation qui se fait, les progrès, la transformation. Oui, car nous sommes transformés. Oui, le salut reçu, nous l'avons reçu une fois pour toutes. Une fois pour toutes, il a été offert et accepté. Et à ce moment-là, nous avons entrepris un processus de transformation. Nous ne nous transformons pas nous-mêmes, nous sommes transformés. Et savez-vous que le mot transformé ici, qui est appliqué à nous, est le même que celui qui est utilisé lors de la transfiguration de Jésus. Nous sommes à notre tour métamorphosés, transformés, façonnés, modelés, illuminés, sublimés peut-être, glorifiés de gloire en gloire. Cette transformation que Dieu opère, pas par nos propres forces, c'est Dieu qui fait cela. C'est son œuvre. Cette transformation, elle est patiente. Elle est minutieuse. Elle est élaborée et réfléchie par notre souverain, notre Dieu Tout-Puissant. Le travail est en cours en chacun de nous. La mise à jour a commencé. Elle est en train de se faire. Cette transformation n'est pas passagère, car elle est éternelle, durable, visible pour toujours. Alors lorsque nous faisons le choix de regarder à Jésus, de nous nourrir de sa parole, de qui il est, nous sommes transformés. L'Écriture nous appelle à prendre le Christ comme modèle, à l'imiter. Comment pourrions-nous imiter celui que nous ne connaissons pas ? Comment pourrions-nous imiter celui que nous ne regardons pas ? Prenons le temps encore et encore, année après année, pour mieux le connaître, grandir dans notre connaissance de la profondeur, de la grandeur, de la largeur, de la hauteur de son amour. Et c'est petit à petit que les croyants sont transformés à l'image de Christ. Et ainsi, nous devenons conformes à lui dans sa mort. Nous sommes nouvellement formés, comme une nouvelle création. Alors, c'est un peu comme du papier photo, pour ceux qui ont connu l'argentique et le papier photo. Quand on veut développer une photo, qu'est-ce qu'on fait ? on projette une image sur ce papier blanc de la lumière. Et la lumière, l'image, le papier garde la mémoire de cette lumière. Et ainsi, lorsque les produits révélateurs sont utilisés, l'image apparaît. Et c'est un peu pareil avec Christ. Son image est projetée sur nous pour que nous puissions nous développer à son image. Et peut-être que les produits révélateurs sont les épreuves de la vie, les joies de la vie, les événements de la vie tout court. Et ainsi l'image apparaît, l'image de Christ. Car l'image de, parce qu'à force de nous exposer à Christ, cette image s'imprègne en nous, s'imprime en nous. Et ainsi nous devenons image de Christ pour le monde. Nous devenons la lettre de Christ au monde. Nous sommes une lettre au monde. Nous sommes la lettre de Christ au monde, celle qu'il a écrite sur nos cœurs de chair, celle qu'il a écrite au cœur de notre vie, écrite par l'Esprit vivant, inaltérable et éternel. Parce que l'encre disparaît, les données informatiques sont assez fragiles, ne sont pas si durables que ça. Les tablettes de pierre gravées se lissent avec le temps. Mais notre existence marquée par l'Esprit, cette lettre au monde, ne s'efface pas, ne se détruit pas. Elle est notre assurance, notre certificat, notre attestation. Il nous a marqués de son sceau, scellés par son sacrifice. Notre assurance vient de ce que Dieu a accompli en nous et de ce qu'il accomplit encore en nous, comme l'assurance de Paul venait de l'œuvre de Dieu, comme l'assurance des Corinthiens devait être trouvée dans ce qu'ils avaient vu, vécu avec Dieu. Si Paul a une quelconque compétence, qualification, elles viennent de Dieu et de lui seul. Si nous sommes capables de suivre et de garder les commandements de notre Dieu, c'est par la grâce et par sa grâce seule. Nous n'avons pas besoin d'une quelconque lettre de recommandation. Nous n'avons pas besoin d'une lettre de référence. Nous sommes image de Christ, façonnés par l'Esprit. Son œuvre en nous est suffisante pour faire taire les critiques, les endurcis, les moqueurs, les incrédules, les aveugles. Parce que c'est Dieu qui convainc, qui défend et qui ouvre les yeux. C'est lui qui convainc, qui nous défend. Il est notre défenseur aussi et qui transforme. Il n'y a aucun doute à avoir. Notre cœur bat. Notre cœur bat. Il est marqué à vie et il vit. Nous vivons dans la liberté obtenue en Christ. Et c'est ainsi comme un miroir. Nous reflétons l'amour de Jésus autour de nous, dans l'Église, dans notre quartier, dans le monde. Nous sommes comme un miroir. Et j'ai compris ce que cela voulait dire, cette image. Le miroir est présent dans la Bible. Ou si, l'image du miroir, si nous lisons la parole, elle est comme un miroir où on se voit dedans. Mais là, nous reflétons, nous contemplons Christ comme dans un miroir. Parce que c'est comme un miroir, vraiment. Alors, j'ai un miroir. C'est qu'en fait, vous avez déjà joué un jour dans en classe, par exemple, il y a longtemps, avec votre montre. Vous aviez, maintenant, ça ne marche plus avec ces montres-là, mais les montres qui captaient la lumière et puis on envoyait la lumière sur quelqu'un pour l'embêter. Les profs, peut-être. Eh bien, c'est pareil. Notre vie est comme un miroir. C'est le miroir, c'est notre vie qui est le miroir. C'est qu'à force de nous orienter vers le miroir vers Christ, eh bien, on envoie la lumière vers le monde. La lumière de Christ se reflète sur notre miroir et est projetée sur les autres autour de nous. C'est ça, de contempler comme un miroir la gloire du Seigneur. Et ainsi, nous sommes transformés et nous devenons image. C'est ainsi, comme un miroir, nous reflétons l'amour de Jésus, je l'ai dit, autour de nous, dans l'Église, dans notre quartier, dans notre ville, dans notre pays, dans le monde. Et c'est à nous, c'est notre tâche, il nous appartient, d'orienter notre vie. Orienter notre vie vers Christ, vers Jésus, le contempler. Et ainsi pouvoir être le reflet de sa splendeur et être lumière du monde. Ainsi, nous pourrions orienter cette lumière vers le monde sans honte, sans peur, avec confiance et assurance, une grande assurance, grâce à l'espérance qui est la nôtre. Alors regardons-nous les uns les autres, illuminons-nous les uns les autres. Nous sommes les témoins, vous êtes chacun un témoignage vivant de sa grâce. Allez, illuminez-vous les uns les autres, dans l'Église, dans le monde, en parlant avec courage, force et confiance. Amen. Je vous invite à prier. Nous te remercions, notre Père, de nous avoir rassemblés. Et d'avoir un jour ôté le voile qui nous rendait aveugles, incapables de te voir. Et depuis, quelle joie de pouvoir te contempler. De pouvoir contempler tout ce que tu as fait, ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu feras encore. Merci parce que nous pouvons avoir cet accès direct auprès de toi. Être en ta présence. Permet que nous puissions constamment puiser en toi la force, le courage, la volonté, la joie de t'obéir et de te servir. Merci parce que nous sommes au bénéfice de ta grâce et que nous sommes juste les choisis, effectivement. Nous te prions pour notre monde, pour notre ville, cette chère ville de Villefranche et les environs. Aide-nous à être lumière du monde, lumière, ta lumière. Ta lumière, c'est toi qui donnes l'énergie. Elle vient de toi, cette lumière. Merci parce que tu veux nous utiliser. Et nous voulons te remettre les aspects dans notre vie qui sont encore des ténèbres et que tu veux que nous laissions à tes pieds, que nous te laissions les éclairer, afin que l'image que nous donnons au monde soit transformée de gloire en gloire dans cette transformation que tu opères de manière parfaite. Car tu es la sagesse, tu es la vérité et tu es le souverain. Amen.